Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Lorsque j'étais étudiant et que je postulais un de ces emplois que les Blancs nous allouent, j'ai compris qu'il n'y avait pas que les bons emplois qui étaient le fait des Blancs. L'histoire dont on nous parlait était aussi celle des Blancs. Les écrits étaient ceux des Blancs, la télévision, les voitures, les médicaments, tous inventés par le Blanc, même le foot. Dans ce monde-là, il n'est pas difficile de croire à l'infériorité d'être noir.
Dans la longue et difficile lutte contre l'apartheid qu'ont mené les leaders noirs de l'Afrique du Sud, Steve Biko, le fondateur du mouvement Conscience Noire, est certainement avec Nelson Mandela, Oliver Tambo et quelques autres, l'une des figures emblématiques de cette période sombre. Dans la lente lutte pour le changement entrepris depuis la libération de Mandela, son image reste très présente. Depuis plus d'un an, une statue a été érigée en sa mémoire à East London, une ville au bord de l'océan Indien. Pour parler de ce leader charismatique dont la mort a ému tout le monde noir à l'époque, Archives d'Afrique a décidé de lui consacrer deux éditions. 1975, alors que la justice sud-africaine l'a assigné à résidence à King Williamstown, depuis bientôt deux ans, Steve Biko réussit à semer ses geôliers pour rejoindre un groupe de jeunes noirs réunis dans un stade de football. Un vaste rassemblement illicite, puisque dans cette période de dure apartheid, les Colored People, comme on appelait les noirs, n'avaient pas la liberté de réunion. L'administration, qui veut les bâillonner, redoute tout mouvement susceptible de leur permettre de s'organiser pour lutter efficacement contre le régime qui les oppresse, le régime blanc. Pourtant, Steve Biko et quelques amis vont réussir à réunir plus de 20 000 spectateurs dans ce stade. Le jeune leader de Conscience Noire, que l'on n'avait pas annoncé, va prendre la parole, à la surprise de la plupart des spectateurs présents.
Ceci est le plus grand rassemblement illicite jamais vu. Nous allons changer l'Afrique du Sud. Il nous faut simplement décider de la meilleure technique. Car aussi en colère que l'on ait le droit de l'être, rappelons-nous que nous luttons pour tuer l'idée qu'une race d'hommes est supérieure à une autre. Et cette idée qu'il faut tuer, elle n'est pas l'apanage du seul homme blanc. Il faut que nous cessions d'en attendre quelque chose. La communauté noire doit s'emplir de sa propre fierté. Nous devons apprendre à nos enfants l'histoire du peuple noir, leur parler des leaders noirs, de la culture noire, pour qu'ils n'affrontent pas le blanc se croyant inférieur. Puis ce sera le face-à-face de son choix, conflictuel s'il le veut, mais la main tendue aussi, pour que tous ensemble, nous bâtissons une Afrique du Sud, une Afrique du Sud d'hommes égaux, noir ou blanc, une Afrique du Sud aussi belle que cette terre, aussi belle que nous.
Ce grand rassemblement illicite où l'on prône la non-violence, l'égalité des races et le pacifisme va se terminer par l'arrestation de Steve Biko et des organisateurs. Il faut dire que ce discours plutôt rationnel complique les affaires des racistes qui ont du mal à le contredire. Pourtant, Biko et ses amis vont se retrouver à la police. Et comme d'habitude, il va faire l'objet de menaces des agents plutôt anti-noirs de la police qui lui manque de respect. Mais si Steve Biko est un pacifiste, il n'accepte pas pour autant qu'on lui porte la main dessus et qu'on lui manque de respect. À l'agent qui veut le brutaliser, sa réponse est claire et cinglante.
Je ne plaide pas pour la violence de Vette. Mais ne faites pas l'erreur de me manquer de respect.
N'aie pas d'ordre à recevoir de toi, négro. Tu sors de ta résidence surveillée, tu parles à une foule, tu ne seras pas témoin de ce procès-là. Tu seras au banc des accusés avec ta clique pour incitation à la haine raciale.
Mais qui est en réalité ce jeune homme qui tient ainsi tête à la rue des racistes administrations sud-africaines et qui semble bénéficier du soutien de tout son peuple? Stephen Bantu Biko est né en 1947, c'est-à-dire un an seulement avant l'instauration du régime du développement séparé mais parallèle. C'est donc dans un régime foncièrement raciste où tous les droits sont détenus par les blancs qu'il va grandir. Un régime où la liberté d'expression ou d'association sont sévèrement restreintes. Les possibilités de grève inexistantes. L'Immorality Act et le Prohibition of Mixed Marriages Act condamnent formellement les rapports sexuels et les mariages entre blancs et noirs. Mais ceci ne concerne que les noirs, puisque de nombreux blancs vont violer ou obliger leurs gardes d'enfants et leurs bonnes à avoir des rapports sexuels avec eux. Ce qui va d'ailleurs donner naissance à une autre classe de Sud-Africains, les métis. Mais ceci est un autre chapitre. Dans cette Afrique du Sud, même les activités sportives tombent sous le coup de la loi de discrimination. Les noirs qui circulent dans les 87% du territoire réservé aux blancs sont considérés comme des résidents temporaires. En tant que tels, ils n'ont aucune liberté civique sur ces territoires et peuvent être arbitrairement renvoyés ou assignés à résidence dans les bantoustans. En zone blanche, ils sont contraints de se munir en permanence de laissez-passer. C'est dans ce climat d'oppression que le jeune Steve Biko va grandir et rejoindre l'université. Lorsqu'il arrive à l'université, il veut devenir médecin. Il étudie aussi la poésie et la composition musicale. Très tôt, ses écrits se colorent de militantisme, mais d'un militantisme non violent. Et c'est là toute l'originalité de l'homme qui a juré une lutte sans merci contre l'apartheid. En 1968, Steve Biko fonde la South African Student Organization, la SASO, la première association estudiantine noire. Il collabore avec des organisations blanches, mais garde une certaine réserve à leur égard.
Nous savons comment vous vivez. Nous tondons vos gazons, faisons vos repas, lavons votre linge, mais vous ne savez rien de nous.
Pour Steve Biko, la libération des Noirs commence par leur acceptation en tant que Noirs. Leur émancipation ne dépend pas d'une minorité blanche, mais de personnes capables d'assumer leurs propres droits, leur propre avenir. Il va alors encourager la création d'associations noires de tout genre, femmes, lycéens, enseignants et autres. Steve Biko réussit au-delà de toute espérance. Son discours est simple.
We are going to change South Africa.
Nous allons changer l'Afrique du Sud. Il nous faut simplement décider de la meilleure technique, car aussi en colère que l'on ait le droit de l'être, rappelons-nous que nous luttons pour tuer l'idée qu'une race d'hommes est supérieure à une autre. Et cette idée qu'il faut tuer, elle n'est pas l'apanage du seul homme blanc. Il faut que nous cessions d'en attendre quelque chose. La communauté noire doit s'emplir de sa propre fierté. Nous devons apprendre à nos enfants l'histoire du peuple noir, leur parler des leaders noirs, de la culture noire, pour qu'ils n'apprennent pas le blanc se croyant inférieur. Puis ce sera le face-à-face de son choix. Conflictuel s'il le veut.
But with an open hand too.
Mais la main tendue aussi.
To say that we can all build a South Africa.
Pour que tous ensemble, nous bâtissions une Afrique du Sud.
A South Africa for equals.
Une Afrique du Sud d'hommes égaux.
Black or white.
Noir ou blanc.
A South Africa.
Une Afrique du Sud.
As beautiful as this land is.
Aussi belle que cette terre.
As beautiful as we are.
Aussi belle que nous.
En 1973, tous ces groupes se fondent dans un nouveau mouvement, la conscience noire. Sa philosophie est l'unité contre les divisions tribales, la prise de conscience face au pouvoir blanc.
Lorsque j'étais étudiant et que je postulais un de ces emplois que les blancs nous allouent, j'ai compris qu'il n'y avait pas que les bons emplois qui étaient le fait des blancs. L'histoire dont on nous parlait était aussi celle des blancs. Les écrits étaient ceux des blancs, la télévision, les voitures, les médicaments, tous inventés par le blanc, même le foot. Dans ce monde-là, il n'est pas difficile de croire à l'infériorité d'être noir.
Nous ne sommes pas racistes, précisent les partisans de Steve Biko, mais nous voulons être pris pour ce que nous sommes, c'est-à-dire des noirs, pas des non-blancs. Le noir ne doit plus être défini en fonction du blanc. On va assister dès cet instant à une véritable renaissance culturelle africaine. Le slogan « Black is beautiful », le noir est beau, est repris partout. Le salut du point levé est adopté, à l'instar des Afro-Américains. Ils exigent même que la mention « pour noir » figure sur les moyens de transport comme sur les façades des lieux publics. Steve Biko devient le catalyseur de toutes les rancœurs d'un peuple, de toutes les brimades accumulées au cours des années et multipliées sous le régime de l'apartheid. Cette négritude tant méprisée, tous veulent maintenant l'assumer, mieux la revendiquer. Steve Biko, à partir de ce moment, fait figure de leader national. Pourtant, à cet instant, il n'a pas encore 30 ans. Face à ce jeune homme, les autorités sud-africaines s'émeuvent. Ils ont du mal à cerner ce géant tranquille à la voix grave. Steve Biko possède une aisance et un ascendant qui déconcerte. Nulle soumission, nulle servilité chez cet homme dont le rire explose souvent en cascade effrénée. Nulle agressivité non plus. Biko étonne parce qu'il est lui-même, un noir bien dans sa peau. Il aime les femmes et la bonne vie. Il déborde d'entrain, d'idées, de paroles. À tout instant, les mots fusent, se bousculent, arrivent quelque peu déformés par l'écart qui sépare ces deux incisives. Le leader de la conscience noire possède aussi un solide sens de l'humour. Un humour qui fait se relâcher les tensions et faciliter bien des rapports, y compris avec la police. Cette dernière sait toutefois à quoi s'en tenir. Ce n'est pas un homme avec qui on peut se permettre trop de liberté. Un jour où les policiers perquisitionnent chez lui, un officier dégaine. Steve Biko lui assène aussitôt une prise de karaté. « Pas d'arme chez moi », gronde-t-il avant de rendre son pistolet à l'officier tremblant. Une autre fois, ce même officier le frappe brutalement lors d'une interrogatoire. Steve Biko lui retourne sa gifle avant de lui répondre.
« No, I don't advocate violence, Yvette.
Je ne plaide pas pour la violence, Yvette. Mais ne faites pas l'erreur de me manquer de respect. »
N'est pas d'ordre à recevoir de toi, négro. Tu sors de ta résidence surveillée, tu parles à une foule, tu ne seras pas témoin de ce procès-là. Tu seras au banc des accusés avec ta clique pour incitation à la haine raciale.
La popularité des Biko commence à gêner. Faute de mieux, les dirigeants sud-africains voient en ce pacifiste un révolutionnaire crypto-marxiste. Le prétexte suffit à le faire traduire en justice. Steve Biko continue de parler de son envie de voir changer l'Afrique du Sud. Cela va même devant le président du tribunal.
Ces messieurs au banc des prévenus et moi avons foi en une Afrique du Sud, société pluraliste, où chaque élément de la communauté noire fournit sa contribution.
Là aussi, Steve Biko n'a pas froid aux yeux. Et c'est avec un certain humour qu'il répond aux questions tendancieuses du président du tribunal qui l'interroge sur le sens du slogan « Black is beautiful ». Dialogue inoubliable.
Pourquoi utilisez-vous le slogan « Black is beautiful » ? On associe communément le noir à des choses négatives, marché noir, bouton noir, robe galeuse et tout ce qui est censé incarner le mal.
Mais pourquoi utilisez-vous alors le terme « noir » après que vous êtes plutôt brun que noir ?
Pourquoi dites-vous que vous êtes blanc ? Vous êtes plutôt rose que blanc.
Les Archives d'Afrique, Alain Foka.
Fin 1973, le régime sud-africain, gêné par la verve et le discours pacifiste de Steve Biko, va le faire assigner à résidence à King's Williamstown. Steve Biko doit arrêter ses études de médecine, commencées à l'université de Natal. Il devient l'objet de tracasseries policières, d'interpellations, d'interrogatoires. Sans incident majeur, la presse sud-africaine blanche continue de parler de lui comme d'un dangereux activiste. C'est en effet à la suite de l'un de ses articles incendiaires qu'il va faire la connaissance de Donald Woods, le rédacteur en chef du Daily Dispatch, un journal libéral et prospère. Donald Woods est l'un de ces notables du Cap, un peu mal à l'aise en ce qui concerne l'apartheid, mais il sait fermer les yeux sur certaines choses. Lorsque Steve Biko, qui est assigné à résidence, demande à Donald Woods de venir le voir, il n'imagine pas que c'est le début d'une autre aventure qui va connaître un retentissement planétaire. Mais cela, nous en parlerons la semaine prochaine dans la seconde partie de cette émission.
Archive au pluriel
point
Afrique
@rfi.fr.
Vous pouvez aussi m'adresser votre courrier à l'adresse suivante. Archives d'Afrique, Service des programmes, Radio France Internationale, BP 95-16, Paris, CEDEX 16, France.
But you, the black child, smart or dumb, you are born into this, and smart or dumb, you'll die.
Mais toi, l'enfant noir, bête ou brillant, tu es né dans ça, tu mourras.
Archives d'Afrique, rendez-vous sur notre site internet, rfi.fr.